soir. Province du Nord Kivu, 14 casques bleus tanzaniens et 5 soldats FARDC tués. C'est le bilan de l'attaque jeudi dernier à Semuliki, dans le territoire de Beni, d'une base de la MONUSCO par des présumés rebelles ougandais de l'ADF. Dans un communiqué, la MONUSCO a indiqué qu'une quarantaine de casques bleus ont été blessés dans cet incident. Comment analyser cette énième attaque des rebelles ADF ? Pour en parler, je reçois David Gressly, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chargé des opérations. Monsieur Gressly, bonsoir.
Monsieur Gressly, bonsoir.
Voilà, je crois que si M. Gressly a une radio à côté ou un retour, s'il peut s'en éloigner ou le fermer, ça nous aiderait. Maître Juvenal Mounoubo Moubi, bonsoir.
Bonsoir M. Alain, bonsoir à tous les auditeurs.
Vous êtes député national élu de Walikale au Nord Kivu. Vous êtes également membre de la commission défense et sécurité et rapporteur de la sous-commission des forces armées à l'Assemblée nationale. Lui, il est aussi en ligne. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, bonsoir. Voilà, on me signale qu'il va nous rejoindre dans un tout petit moment. C'est Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Au Nord Kivu, cérémonie d'hommage hier à Beni aux 14 casques bleus tués jeudi dernier par des présumés rebelles ougandais de l'ADF aux abords du pont Semuliki sur l'axe Mbao-Kamango. C'était en présence du numéro 2 de la MONUSCO chargé des opérations, de l'ambassadeur de la Tanzanie en RDC et du commandant de la 3e zone de défense des FARDC. Martial Papi Mukeba, reportage.
Quelques minutes après le début de cette cérémonie d'hommage, 14 cercueils contenant les corps des casques bleus tués et couverts des drapeaux des Nations Unies et de la Tanzanie sont exposés devant les différentes personnalités venues rendre hommage à ces soldats de la paix. Prenant la parole au cours de cette cérémonie, le général Léo Mouchalet, commandant de la 3e zone de défense des FARDC, a loué l'engagement de ces casques bleus dans la lutte contre l'ADF en parlant d'un exemple à suivre par les FARDC.
Il n'y a pas un amour plus grand que celui de se sacrifier pour le bien-être de l'autre. Cet instant doit servir d'exemple exaltant à chaque soldat congolais. Cet acte combien louable sera inscrit dans l'histoire moderne de notre République. Vaillants combattants tanzaniens et compagnons d'armes, d'ores et déjà, cela réveille en nous la force de dire que nous n'oublierons jamais votre présence parmi nous, que nous n'oublierons jamais le travail combien louable, combien exaltant, combien noble que vous venez d'accomplir.
Signalons que le rapatriement des corps de ces casques bleus vers la Tanzanie est intervenu après cette cérémonie d'hommage. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Merci Martial Papi Mukeba. En attendant que la réalisation nous aide à harmoniser la ligne de David Gressly, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chargé des opérations. On me signale que Monsieur le gouverneur Julien Paluku est en ligne. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Oui, bonsoir Monsieur Alain, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le gouverneur, comment vous analysez cette énième attaque des présumés ADF contre cette base de la MONUSCO qui a fait 14 casques bleus tanzaniens tués?
Oui, d'abord, je vais commencer à regretter ce qui s'est passé à Beni, c'est affreux. C'est même insupportable parce que cela vient s'ajouter à beaucoup d'événements qui se sont déroulés dans la région. Voilà pourquoi je commence par adresser au nom du gouvernement congolais que je représente en province et au nom de mon gouvernement provincial toutes nos compassions à la famille des Nations Unies, au gouvernement tanzanien, aux membres des familles des casques bleus qui sont tombés ainsi qu'à aux membres des familles de tous les soldats congolais qui tombent chaque jour qui passe sur les champs d'honneur à Beni comme partout ailleurs. Alors, monsieur le journaliste, cette énième attaque soulève quand même quelques faits remarquables. Le premier fait, c'est que l'attaque nous démontre suffisamment la présence sur le sol congolais des mouvements terroristes. Voilà pourquoi quand vous dites les présumés ADF, moi je voudrais désormais qu'on parle des ADF au lieu de penser d'une présomption. C'est une présence avérée sur le sol congolais des ADF, de par les modes opératoires, de par la capacité de nuisance jusqu'au cœur même de la brigade d'intervention des Nations Unies. Le deuxième fait, c'est la chaîne logistique bien organisée, armes, munitions, médicaments, tout cela coiffé par un commandement, parce que lorsque ces gens doivent arriver jusqu'au cœur même de la brigade d'intervention des Nations Unies, c'est qu'il y a un commandement qui pilote ça. Le troisième fait que je note, c'est une sorte de connexion de ces groupes terroristes avec des réseaux à la fois internes et externes qui organisent effectivement cette machine meurtrière. Alors ces trois faits-là, à mon avis, doivent amener et la communauté internationale et le gouvernement congolais à évaluer les méthodes d'action sur le terrain, les ripostes qui sont souvent organisées, leur efficacité et leur efficience pour savoir exactement si 3 ans après que le massacre ait commencé à Beni en octobre 2014, toutes les stratégies que nous sommes en train de mettre en place restent encore adaptées à la menace telle que nous la vivons tous à Beni.
Alors, Monsieur le Gouverneur, quand vous vous posez des questions certainement objectives quant à l'efficience et l'efficacité des méthodes et stratégies appliquées 3 ans après dans la région de Beni, est-ce que cela ne voudrait pas, ne dénote pas une certaine impuissance de la part et de la MONUSCO et des FARDC?
Le niveau d'impuissance n'est pas à pouvoir être démontré par ma personne. Je crois que ce qui est important maintenant, c'est de pouvoir faire un arrêt sur image, un arrêt sur événement, un arrêt sur les massacres pour dire, eh bien, nous sommes les Nations Unies, nous sommes le gouvernement congolais, ce qui se passe à Beni est-il réellement adapté aux méthodes, aux stratégies que nous avons mises en place? C'est la raison pour laquelle je crois qu'il est temps, vraiment 3 ans après, qu'on évalue. Parce que ce qui s'est passé au Nigeria, à l'époque où on avait enlevé les 200 lycéens, tout le monde pensait que c'était un problème nigérien. Maintenant, ça s'est étendu, c'est au Mali, c'est au Niger, c'est au Cameroun, c'est au Tchad. On doit faire un arrêt sur événement pour que cette évaluation-là nous permette de nous projeter vers l'avenir et dire, nous avons failli à tel niveau, et peut-être en rectifiant là où nous avons failli, nous pouvons maintenant mettre en place des stratégies adaptées à la menace, parce que peut-être on peut l'avoir mal identifié. Comme j'ai eu à le dire plusieurs fois, je suis monté sur tous les toits pour crier, pour faire des alertes, pour faire des SOS. Et vous vous rappelez, il y a des gens qui, après mon alerte, ils ont eu plusieurs fois à me contredire. Mais quelques temps plus tard, eh bien, les événements ont fini par me donner raison. Voilà pourquoi j'estime quand même que, en tant que Congolais, en tant que patriote, il n'est pas tard de reconnaître que nous pouvons n'avoir pas eu des méthodes adaptées à la menace et qu'il faille maintenant que nous puissions penser de nouvelles méthodes pour que finalement la population trouve la paix à Beni et aux environs.
Monsieur le Gouverneur, en parlant de ces assaillants, on sait que au début, leurs attaques étaient très souvent menées contre la population, qu'ils ont beaucoup massacré. Ensuite, ils s'en prenaient au FARDC. Maintenant, c'est au casque bleu. Jusque-là, la véritable identité de ces assaillants n'est pas connue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Mais l'identité des assaillants, je viens d'une réunion à Kigali, où la délégation congolaise était conduite par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, son excellence M. Chadari. Eh bien, tous les 11 pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale ont reconnu désormais, de par les méthodes de travail, de par la menace qui pèse sur l'Est de la RDC, tous ces pays, tous ces États ont couché dans le document final qu'effectivement les ADF sont des terroristes avérés. Ils doivent être traités comme tous les autres terroristes à travers le monde. Les Boko Haram, les djihadistes, l'État islamique. Donc tout cela a été bien couché dans le document. Je crois qu'il y a eu beaucoup de tâtonnements avant. Les gens ont confondu effectivement ce qui se passe à Beni à quelques mouvements Maïmaï, comme c'est le cas dans la région des Grands Lacs et partout ailleurs. Mais lorsque nous les avions nommés à l'époque, eh bien, il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas croire. Mais avec tout ce qui se passe ici, je crois que ça doit nous amener à nous interroger sur la vraie identité. Parce qu'en nommant ceux qui attaquent comme des ADF, nous allons mettre en place aussi des méthodes et des outils de travail qui correspondent à la menace. Mais en ne nommant pas ces assaillants-là de la manière d'où il se comporte aujourd'hui, nous allons minimiser la riposte organisée et évidemment la conséquence, c'est des choses auxquelles on est en train de participer. Ils ont pensé affaiblir la population, ils ont pensé affaiblir les FRDC, maintenant ils pensent également affaiblir la force des Nations Unies pour installer ces mouvements terroristes, ces trous noirs à Beni. Merci. Parce que et les FRDC et les Nations Unies, tous se seront déjà démontrés faibles devant cette menace. C'est la stratégie terroristes qui sont en train d'installer effectivement dans les territoires de Beni.
Merci Monsieur le Gouverneur Julien Paloukou. La réalisation me signale que nous avons du mal à joindre David Gressly, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chargé des opérations. Pendant que la réalisation continue tenter de le joindre, nous avons dans ce studio Honorable Juvenal Mounoubo Moubi, député national élu de Walikale au Nord Kivu. Il est membre de la commission défense et sécurité, rapporteur de la sous-commission des forces armées à l'Assemblée nationale. Honorable Mounoubo, comment vous avez analysé cette énième attaque des présumés rebelles ADF? Vous venez de suivre l'analyse de Monsieur le gouverneur Julien Paloukou.
C'est choquant, c'est préoccupant. Je voudrais tout d'abord saluer le gouverneur qui intervient dans cette émission. Je salue aussi M. David Gressly qui nous rejoint. Je disais tantôt que c'est choquant et puis c'est préoccupant. Et puis ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce qui est arrivé cette semaine, c'est les éléments de la MONUSCO qui sont tombés. 14 éléments au cours d'une attaque, ce n'est pas bénin. Mais il faut rappeler que beaucoup de civils ont déjà péri dans ces drames de Beni. Et suivant, quand on voit les sources locales, lorsqu'on essaie de les compiler, c'est presque 1000 personnes qui sont déjà mortes depuis octobre 2014, si je me souviens bien. Les premiers massacres, en effet, ont eu lieu vers fin 2014. Et donc, ça ne devrait pas être une surprise. Ça ne devrait pas surprendre outre mesure. Pourquoi ? Parce que la menace est là. Et les gouverneurs du Nord Kivu viennent de le reconnaître. Mais moi, je dirais qu'il y a encore un problème. Il y a encore un préalable. Il y a un défi. C'est le défi de l'identification du tueur même. Il y a les ADF, mais il n'y a pas que les ADF. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des rapports qui ont été produits, notamment les rapports du groupe d'études sur le Congo. Je sais que côté gouvernement, il n'y a jamais eu un rapport sérieux sur Beni, tout comme sur le plan international, un rapport, disons une enquête internationale, n'a jamais eu lieu. Mais il y a des chercheurs comme les groupes d'études sur le Congo,
avec Jason Sterz,
qui disent qu'il y a les ADF, c'est-à-dire des Ougandais, des combattants ougandais contre le régime de Museveni, qui sont ici, qui se sont créés depuis 1995, et qui agissent aussi avec certaines milices locales. Et là, même le groupe d'études sur le Congo ne finit pas ses analyses et estime qu'il faut approfondir la recherche. Donc on est devant une nébuleuse qui cause la désolation, mais qu'on n'arrive toujours pas à identifier. Et ce qui est davantage choquant, c'est que 3 ans après, on est toujours devant ce défi-là de savoir qui tue nos compatriotes. Mais aussi, ce qui choque encore, c'est quoi ? Il y a toujours les besoins de justice, la quête de justice. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a jamais eu une enquête indépendante sur Beni. Les victimes n'ont jamais été indemnisées. Les auteurs, en réalité, les grands auteurs n'ont jamais été sanctionnés. Je rappelle ici que celui qu'on présentait comme étant le chef, le lead de ces mouvements, Djamil Mukulu, a été arrêté. Il est en Ouganda. Mais on ne sait pas la suite. Et pourtant, le gouverneur nous dit qu'il vient d'une réunion à Kigali. Et je crois qu'il y avait des délégués ougandais là-bas à cette réunion. Il faut que les officiels congolais posent la question aux Ougandais. Quel est le sort qu'on a réservé, par exemple, à Djamil Mukulu? L'arrestation de Djamil Mukulu pourrait nous aider à en savoir davantage sur les ADF. Parce que les ADF, c'est une réalité ancienne. Mais c'est aussi une réalité, je dirais, actuelle, qui est dans l'actualité. Parce que, comme l'a dit Monsieur le gouverneur, et je confirme, et on a l'impression qu'ils sont ravitaillés. On a l'impression qu'ils restent
toujours...
Ils
ont une base arrière.
On a l'impression vraiment qu'ils ont une base arrière. Il y a eu une enquête... pas une enquête parlementaire en tant que telle, mais il y a eu une mission d'information que les députés du Nord Kivu avaient menée. C'était quelques semaines après le début des massacres. Et là, nous avons relevé quelques faits. Il y a, par exemple, le problème au niveau du commandement. Un commandement qui était lent, un commandement méfiant, un commandement qui, quand bien même que les victimes allaient vers les quartiers généraux des militaires pour leur dire, voilà, venez intervenir, ils ne venaient pas. Les commandements, les militaires recevaient des informations à temps, mais ils n'agissaient pas. On a noté aussi une faible collaboration entre les forces de l'ordre et la société civile et la population. Et puis, on a vu qu'il fallait approfondir les enquêtes, au moins une enquête parlementaire. Il fallait approfondir l'information, il faut collecter les éléments sur terrain.
Est-ce que ce n'est pas à ce niveau-là, honorable Monobo, que le gouverneur Paluku insiste qu'il y ait une évaluation sérieuse sur les stratégies appliquées pendant ces 3 années? Il a dit qu'il fallait se poser la question si ces stratégies étaient encore efficaces et efficientes.
Je suis d'accord avec lui. Vous savez, le commandement militaire, c'est quoi? C'est un peu comme le virus d'un ordinateur. Il faut toujours s'assurer si c'est à jour, quoi. Un commandement militaire ne peut pas se sédentariser pendant longtemps. Parce qu'il y a aussi un autre problème, et ça a été relevé, c'est pas moi qui l'ai dit pour la première fois, le fait qu'il y a des militaires, des officiers militaires qui parfois laissent leur travail, leur mission, ou alors mélangent leur mission avec d'autres choses, les trafics par exemple. Parce qu'il faut se poser la question, quel est le nerf de la guerre dans cette zone? Qu'est-ce qui pourrait constituer l'objet des... Qu'est-ce qui fait vivre, par exemple, les ADF Nalo? Qu'est-ce qui fait à qui profitent les crimes et qu'est-ce qui fait que ça se pérennise? Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, le commerce de bois dans cette zone? Est-ce qu'il n'y a pas le commerce de stupéfiants? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut quand même dire que c'est une zone assez propice pour...
Un no man's land.
Oui, bien sûr. C'est une zone difficile à contrôler, mais c'est aussi une zone frontalière ou près de la frontière, c'est-à-dire propice aux échanges. Il faut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des trafics qui s'effectuent et ces trafics profitent aux assaillants? Alors, c'est des questions. Seule une enquête sérieuse, indépendante, au niveau des Nations Unies, en collaboration avec les gouvernements congolais, pourrait nous aider à avancer en termes de récolte des éléments sur cette nébuleuse qui cause la désolation.
Merci. La réalisation me signale que David Gressly est en ligne. Monsieur Gressly, bonsoir, vous nous suivez?
Oui, bonsoir. Comment ça va?
Merci beaucoup. Vous êtes représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chargé des opérations. Monsieur Gressly, plus de 4 jours après cette attaque qui a coûté la vie à 14 casques bleus tanzaniens, la MONUSCO sait-elle réellement ce qui s'est passé?
En fait, nous sommes toujours en train de faire des enquêtes parce qu'on veut savoir exactement ce qui s'est passé. Les enquêteurs étaient sur ce dossier depuis en fait vendredi passé. Cette enquête va continuer avec une examination sur le terrain, mais aussi avec les discussions avec les soldats qui ont été donc j'espère après tout ça on va avoir une meilleure idée de ce qui s'est passé et de tirer des leçons de ce qu'on doit faire pour adapter à cette situation. Et je crois il est bon de noter que la situation est difficile dans cet endroit et on a noté dans les mois passés que la ADF, et on présume que la ADF est devenu un peu plus fort avec des tactiques qui sont plus adaptées et de notre côté on doit aussi s'adapter à cette situation de faire face à ce défi.
Alors, David Gressly, comment vous expliquez, par exemple, qu'une telle attaque a été possible et pourquoi la MONUSCO a mis 12 heures avant que le premier hélicoptère de combat ne survole la zone attaquée?
Cette base est importante pour protéger le pont qui traverse le fleuve Semuliki. Et c'est important pour protéger la route vers Kamango et la population qui est là. Mais malheureusement, cette base est très isolée. La route entre Semuliki et Kamango est très mauvaise et aussi vers l'ouest. Vers Mbao, la même situation. Donc, c'est très difficile d'y aller rapidement. Ça prend des heures et des heures par la route. Aussi, la ADF a attaqué dans la nuit. Donc, aussi, c'était très difficile d'y aller par les avocats. parce que malheureusement, nos habitants n'ont pas le moyen de voler la nuit. Ça, c'est quelque chose à changer, en fait, et nous sommes en train de voir comment on peut changer ça. Donc, c'était difficile d'y aller pendant la nuit même, mais une fois que ces arbres ont été là pour aider les soldats dans la base. Mais comme je disais, la base est très isolée, et c'est aussi important pour protéger la population à Kamanga. Donc, on doit reconnaître le sacrifice de ces soldats tanzaniens qui ont donné leur vie pour ça. Je crois que ça, c'est très important. Et on doit aussi reconnaître qu'il y avait d'autres soldats aussi tanzaniens qui ont trouvé la mort dans la même zone, dans les mois passés, mais aussi dans les années passées. Pour nous, on doit vraiment rendre hommage à ces soldats, mais aussi de reconnaître le sacrifice de l'armée congolaise, qui aussi a perdu beaucoup de vie dans cette zone. Je crois, je peux même anticiper l'une de vos questions, c'est de dire la stratégie contre le ADF qui a été soulevée par les deux autres. Je crois aussi, comme eux, que c'est important maintenant de revoir la stratégie de la lutte contre le ADF parce qu'on a noté que l'ADF a adapté ses tactiques, ses stratégies. Nous devons faire la même chose et on doit faire ça plus rapidement que l'ADF.
David Gressly, depuis le début des attaques contre les civils, les FRDC, les casques bleus de la MONUSCO, on ne parle que des présumés ADF. Vous avez dit que des enquêtes sont en cours. Qu'est-ce qui vous fait dire que les assaillants sont des présumés ADF? A-t-on une précision sur leur identité?
C'est parce que c'est le groupe qui est le plus proche, qui est présent dans la forêt autour de Sandiki, donc c'est très probable que c'était le ADF. Mais nous restons ouverts pour d'autres possibilités et aussi les tactiques qui ont été utilisées, c'est la même qu'on a vu dans le passé aussi. Sauf cette fois-ci, dans les mois passés, comme je disais tout de suite, on a vu qu'il y a une augmentation dans leur capacité de se battre. Donc, il semble de peut-être d'avoir plus d'aliments maintenant et pour faire le bataille pour un pied plus long que dans le passé. Donc, ce sont des aliments nouveaux qui sont entrés. Donc, aussi, on doit examiner tout ça pour avoir une nouvelle stratégie contre l'ADF.
Entre mai 2015 et décembre 2017, 19 casques bleus tanzaniens de la brigade d'intervention censée être la mieux équipée ont trouvé la mort sur l'axe Mbau-Kamango. Ce bilan, David Gressly, ne met-il pas à nu l'inefficacité des casques bleus de la MONUSCO, comme l'affirment certains analystes?
Je crois que ça, c'est pas vraiment correct du tout, en fait. Le fait qu'il y avait cette attaque qui a réussi en partie ne veut pas dire qu'on doit revoir, comme j'ai dit au début, notre stratégie. Et en fait, nous sommes très déterminés de rester sur cet axe de la protéger. C'est un axe important pour protéger la population à Kamango, mais aussi de protéger, de prévenir l'accès vers le sud pour l'ADF. Donc ça reste toujours très important. Et on a eu, je crois, quelques succès dans le passé, ensemble avec l'armée congolaise. Je crois on a fait beaucoup de pression sur l'ADF, qui a eu un certain effet. On a vu une diminution des attaques sur les civils depuis l'année passée. Et je crois que ça c'est lié en partie de cette pression qui a été faite par les deux armées. Pour l'avenir et pour l'avenir proche, notre ce qu'on va faire d'abord est de renforcer notre position à Sabouzike et aussi à Kamango, mais on va aussi améliorer la route Mbao Kamango pour assurer un meilleur accès pour qu'on puisse y aller rapidement, même dans la nuit. Et je crois que ça va aussi faciliter l'accès, pas seulement par nous, mais aussi par l'armée congolaise.
Merci.
Et aussi va permettre un meilleur accès entre la frontière ougandaise et Mavivi Beni et cet axe-là pour augmenter le commerce qui est aussi important.
Merci, David Gassi.
Donc, ça va donner quelques bénéfices pour la population et ça va nous permettre de voir un meilleur positionnement sur cet axe.
Merci, David Gassi.
Je crois après cette question contre l'ADF dans le triangle même est toujours très important.
Merci.
Nous restons très déterminés de continuer notre appui pour cette fois.
Merci, David Gassi. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
Omer Kazadi depuis Lubumbashi. D'emblée, dans cette situation, on accusera le gouvernement congolais, puisque depuis la réduction des effectifs de la MONUSCO réclamée par ce dernier, n'importe quel groupe armé se sent capable d'attaquer. Alors, on se demande, le plan c'est de réduire et de fragiliser cette dernière. On se demande aussi, est-ce que le gouvernement a pu compenser cette réduction par l'envoi de troupes supplémentaires des FATC? Alors, avec tout ça, on comprend que les groupes armés sont bien financés, organisés et patronnés par les autorités. Et demander aussi une enquête à ce gouvernement actuel qui est craché sur la mémoire de ces soldats tombés. Puisque pour ses propres enfants, combien d'enquêtes ont-elles abouti?
Monsieur le gouverneur Julien Paluku, que répondez-vous à Omer Kazadi de Lubumbashi?
Oui, Omer Kazadi est en train de se poser des questions qui sont légitimes pour toute personne qui voit ce qui se passe. Mais je dois tout de suite rappeler que, faute d'avoir identifié clairement l'assaillant de Beni comme terroriste, eh bien, j'estime que les méthodes n'ont pas été adaptées. Et ce que je dois rappeler à mon compatriote Kazadi, c'est que lorsque ces choses se passent dans d'autres pays, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Afrique de l'Ouest, comme nous les connaissons, eh bien, tous les acteurs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient sociaux, se mobilisent autour de leur gouvernement pour devoir identifier les mal et formuler des propositions à l'endroit de leur gouvernement et dire « pour nous, nous pensons à ça ». Mais c'est à quoi nous assistons en République démocratique du Congo. C'est comme s'il y a une sorte d'exploitation politique de ce qui se passe à Beni, où il y a un camp qui semble se réjouir de ce qui se passe parce que croyant qu'il y a une faiblesse d'un gouvernement, et un autre camp qui s'appelle le gouvernement, qui se trouve impuissant de voir les choses se détériorer alors qu'il n'est pas capable. Moi, je crois que nous devons dépasser ce stade d'analyse. Nous devons dépasser ce stade de jérémiade pour nous dire « le mal est déjà en République démocratique du Congo ». Nous avons plus de 1000 civils qui ont été tués. Nous avons plus de 1000 militaires qui ont été tués. Nous avons aujourd'hui des dizaines de casques bleus qui sont tués. Je crois qu'il nous faut un arrêt pour dire, eh bien, l'heure est grave au nord de la province du Nord Kivu. Nous devons nous associer, nous tous. Il a parlé de la compensation des forces armées et par ce qui est parti au niveau de la MONUSCO. Moi, je crois que c'est cela l'évaluation qui doit être faite, au lieu à ce que chacun se mette chez lui, réfléchissent pour dire « moi je pense qu'il faut jeter la pierre sur tel autre, l'autre dit la victime est le coupable c'est tel ». À mon niveau, je crois qu'il est temps vraiment que tout le monde se mette autour d'une table et qu'on arrête désormais une projection pour l'avenir et dire « ce qui se passe à Beni est déjà identifié ». Voici les méthodes efficaces pour devoir détruire la menace, comme c'est le cas aux États-Unis et partout ailleurs, où tous les gouvernements se liguent pour devoir faire le travail comme il se doit.
Monsieur le gouverneur, la population, du moins pour la plupart des réactions que nous avons reçues, a l'impression que presque toutes les méthodes ont été épuisées et que le partenariat MONUSCO-FRDC a prouvé ses limites. Quelles seraient, selon vous, les meilleures méthodes lorsqu'on se bat contre un fantôme comme ces présumés ADF?
Non, la meilleure méthode, c'est d'abord de savoir qu'on a été inefficace. Parce que si on continue à se glorifier dans les méthodes actuelles, eh bien, on ne fera rien. La meilleure méthode, c'est de se remettre en cause, et au niveau du gouvernement, et au niveau de la MONUSCO. Mais pour moi, j'estime que la meilleure méthode actuellement, c'est que au niveau de la communauté internationale qui a voté la résolution créant la brigade d'intervention, je crois qu'il nous faut améliorer cette résolution pour que la brigade d'intervention soit transformée en une force spéciale qui a une marge de manœuvre beaucoup plus large, avec possibilité d'élargir eh bien ses actions ou ses forces à d'autres forces comme celle de la SADC. Mais aussi longtemps que la brigade à l'intérieur de la MONUSCO continuera à dépendre de la lourdeur de la machine administrative et logistique des Nations Unies, je crois que nous serons loin d'apprécier la qualité d'intervention de la brigade d'intervention qui est venue en appui aux forces armées. Tout en notant évidemment que la responsabilité première de ce qui se passe à Beni n'est pas celle de la brigade, mais bien évidemment de nos forces armées qui, à leur niveau, doivent également s'autonomiser dans leur méthode d'action pour mettre un terme à ce qui se passe à Beni.
Merci, Monsieur le Gouverneur. Honorable Juvenal Munubo, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud.
Robert Kabanda, je suis à Bukavu. Pourquoi notre pays ne peut pas, ensemble avec l'Ouganda, le Rwanda, combattre ces rebelles ougandais, les mettre hors d'état de nuire une fois pour toutes, puisque trop c'est trop? Est-ce que ces rebelles se sont rebellés contre le pouvoir en Ouganda ou bien contre le pouvoir en RDC?
J'ajoute cette réaction d'Innocent Armand Kondoli de Kinshasa qui dit « Ne sommes-nous pas capables de mettre fin aux attaques des ADF et de pacifier l'Est du Congo? La défaillance incombe à notre armée qui a failli à sa mission régalienne, celle de protéger le territoire national. La réforme de cette armée est souhaitable et s'il y a lieu de recourir au mercenariat pour endiguer l'ADF, que cela puisse se faire pour la sécurité du pays, honorable Munubo. »
Oui, merci beaucoup. Je vais d'abord répondre à M. Robert. Hein. Je pense que une opération conjointe, on en a déjà connu, hein, et ça a eu aussi des dérapages, comme le cas de l'opération Umoja-Wetu. Souvenez-vous que cette opération, à un moment donné, on a eu l'impression que c'était une opération de dispersion des FDLR, au lieu d'être une opération véritable de traque. Et les FDLR, dans leur dispersion, avaient commis beaucoup d'exactions sur les civils. C'est le cas, par exemple, des massacres de Busurungi à Walikale. Des civils ont été tués par les FDLR lors de leur quand on les poursuivait, et Human Rights Watch avait d'ailleurs fait un rapport dans ce sens-là. Raison pour laquelle moi je n'encourage pas que l'Ouganda ou l'armée l'UPDF vienne ici, parce qu'elle a déjà été ici, il y a eu la guerre de Kisangani, les opérations conjointes, moi je ne les encourage pas.
Monsieur le gouverneur parle d'une force spéciale élargie par exemple à la SADC.
C'est question d'étudier, mais vous savez, les forces spéciales, évidemment, il faut les analyser. Et ça peut être une solution, pourquoi pas, parce qu'on a déjà eu une force spéciale, une opération militaire spéciale à Ituri, à Bunia, en 2003. L'opération Artemis, une collaboration entre l'Union européenne et les Nations unies. C'était une opération courte, ça n'a pas fait beaucoup de temps et ça a produit des résultats. Pourquoi ne pas penser à une opération comme celle-là? Quand la brigade d'intervention est arrivée, ça avait suscité de l'espoir. Et il faut quand même dire que la brigade d'intervention a fait un travail. La traque, la chute du M23, ça c'est dans l'actif de la brigade d'intervention.
Nous déplorons... Mais après, il y a des analystes qui estiment qu'il y a eu un silence radio, on n'entendait plus parler de cette brigade.
En fait, le problème c'est quoi? On peut avoir une meilleure brigade qui arrive, même une sorte d'Artemis bis qui arrive. Mais tant que la collaboration entre les FRDC et cette force qui arrive, si cette collaboration n'est pas efficace, il n'y aura pas de résultats. Donc on peut avoir une mission spéciale ou une opération spéciale, mais si il faut voir l'état de collaboration entre FRDC et MONUSCO. Ça, c'est une question qu'il faut poser. Aussi, la collaboration entre FRDC, par exemple, et population locale. Parce que les ADF agissent comme une guérilla. Vous ne pouvez pas vaincre une guérilla sans un recueil de renseignements. Et vous constituez le recueil des renseignements lorsque vous collaborez avec les populations civiles. Est-ce que la collaboration a évolué? Parce que nous, députés, nous avions constaté qu'elle était déficitaire.
Il y a aussi la collaboration entre la population et la MONUSCO.
Oui, oui. Ça, c'est aussi un autre défi lorsqu'il y a des éléments qui n'est sur le plan langue, par exemple. Ils n'arrivent pas à communiquer avec les populations locales. Les Tanzaniens s'en sortaient bien parce qu'ils communiquent en Swahili, dans cette partie de l'Est. Je regrette la perte de ces Tanzaniens. Les Tanzaniens ont fait un bon travail dans le cadre de la brigade d'intervention contre l'M23. Et puis côté congolais, je le disais, les commandements, c'est comme l'antivirus d'un ordinateur. Il faut toujours faire les mises à jour, les updates. Si vous posez la question à Beni ou dans la zone de Beni, ça peut être à Kamango ou Ambao, quel type de commandement il faut, ils vous diront tout de suite un commandement comme celui du fait colonel Mamadou ou du fait général Bauma. Vous voyez, comme celui-là. C'est pour ainsi dire que les commandements, il faut y veiller. Et je suis tout à fait d'accord avec le gouverneur que la question sécuritaire, c'est pas veut dire que nous allons jeter des pierres au gouvernement. Il faut qu'on arrive justement à partager ces soucis-là sécuritaires et à y contribuer nous tous. Merci. Mais nous ne pouvons les faire que si les uns les autres acceptent de collaborer pour y mettre fin. Il faut donc améliorer les relations civilo-militaires.
Merci.
C'est très important pour vaincre une guérilla.
Merci. David Gressly, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Ougane Mungwajue depuis Kisangani, province de la Tchopo. À mon humble avis, l'attaque de Beni est justifiée par un double complot, c'est-à-dire la responsabilité partagée. D'une part, nous avons la communauté internationale qui est au courant de tout ce qui se passe à l'est du pays et ne dit mot. Or, celui qui ne dit mot consent. Tous les communiqués et bilans donnés par les ONG internationales ne font que de simples déclarations au lieu de sanctionner, c'est-à-dire actions répressives. Donc, il est évident que nous soupçonnions cette complicité et de parler de l'inopportunité de la MONUSCO au Congo parce qu'elle a échoué à sa mission de la paix. De l'autre côté, c'est l'État congolais lui-même qui est incapable de sécuriser sa propre population, qui est même une mission régalienne de l'État. Tout cela, c'est pour justifier la non-tenue des élections.
David Gressy, que répondez-vous à cet auditeur?
Est-ce que vous pouvez répéter un peu ce qu'il a demandé parce que je n'ai pas bien écouté?
Voilà, de manière assez brève, il parle d'une responsabilité partagée entre la MONUSCO représentée, la communauté internationale représentée par la MONUSCO et le gouvernement congolais, et il dit que la MONUSCO est inefficace, le gouvernement congolais aussi. Est-ce que vous partagez cette frustration, ce point de vue?
Ouais, comme je disais avant, je crois il faut toujours adapter à la situation et déjà, le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné leur corps pour une transformation de notre force, pour que ce soit bien adapté à cette situation contre la DF et dans l'autre localité aussi. Donc, peut-être je peux citer quelques transformations qui sont déjà en cours. Je suis tout à fait d'accord qu'on doit avoir des personnels qui est adapté à l'environnement. Donc, on a demandé pour des forces spéciales qui sont adaptées pour les jungles, en fait, pour travailler dans une forêt dense comme on trouve dans cette zone. On va avoir, et ça a été promis et on espère avoir ça très bientôt. Je crois que la Tanzanie et le Sud-Afrique a déjà promis des fonds spéciaux adaptés pour la forêt. Deuxièmement, nous avons maintenant l'accord pour augmenter la mobilité de notre force, c'est-à-dire d'avoir plus d'avions, plus des hélicos. Comme je disais avant, il faut avoir la capacité de voler la nuit aussi pour vraiment pas seulement protéger notre force, mais aussi d'aller à l'avant contre ce groupe, l'ADF. On va avoir d'autres capacités qui va aussi nous aider dans cette lutte. On a parlé aussi de la collaboration. Nous pensons que cette collaboration est fondamentale si on va avoir à la fin un succès contre l'ADF. Donc, je crois pour ce groupe particulièrement, nous avons la collaboration la plus proche entre la FRDC et la MONUSCO. Nous donnons aussi à l'armée congolaise un appui logistique. Parfois, on fait des évacuations sanitaires. On fait aussi la livraison de matériel, carburant, des rations, des vivres pour les soldats qui travaillent dans cette zone qui est très, très difficile et très dangereuse.
David Gassi.
Donc, je crois que cette collaboration est fondamentale et ensemble, on doit avoir, comme je disais avant, une stratégie qui reflète vraiment la situation qu'on trouve actuellement.
David Grisly, vous avez dit qu'à l'avenir, la MONUSCO va renforcer ses positions, faciliter un meilleur accès, notamment sur l'axe Mbau-Kamango. Là, vous parlez des forces spatiales adaptées à l'environnement, qu'il va falloir joindre à toutes ces forces. Mais vous l'avez dit vous-même, les assaillants, les présumés ADF, étaient surarmés, très bien organisés. Ça veut dire qu'ils ont des bases arrières, peut-être dans les pays voisins. Ne faudrait-il pas une approche aussi sous-régionale pour résoudre cette question?
Pour tous ces genres de groupes, je crois, bien sûr, ça sera aussi utile d'avoir ce contact régional. Nous avons envoyé spécial à M. Jennett, qui est en fait responsable pour ça, pour les Grands Lacs. Qui reste toujours en contact avec les gouvernements régionaux pour aider dans cette approche. Oui, je suis tout à fait d'accord qu'une approche régionale est aussi importante. Mais plus précisément, je crois que la plupart du problème reste toujours ici dans ce pays. Il faut vraiment focaliser sur le problème, de trouver où ils reçoivent leur appui. Nous savons, comme l'armée congolaise, le système logistique de ce groupe. Il faut prévenir l'utilisation de la logistique. Et aussi, il faut occuper les zones où il y aura toujours le camp. Le plus qu'on peut augmenter cette pression et de disperser ces gens, le plus facile ce sera d'avoir un succès. Ça va prendre du temps, ça va prendre une flexibilité, une souplesse de tirer des leçons, comme on va faire après Samuleki, pour avoir une stratégie dynamique qui s'adapte d'un jour à l'autre. Donc, je crois que cette souplesse, la collaboration dont je viens de parler, qui sera important aussi.
Merci.
Si on veut vraiment avoir un succès dans les médias.
Alors, l'émission est en train de se terminer, David Grisly. Il nous reste moins de deux minutes. Pouvez-vous dire un mot en guise de conclusion adressé à ces populations de la région de Beni, en guise de conclusion?
Je crois que le message clé maintenant est de notre côté, la MONUSCO, que nous restons déterminés de continuer notre travail sur cet axe, mais aussi de protéger les civils sur l'axe Beni-Arengeti qui a été touché souvent dans le passé. Je crois que ça reste toujours une responsabilité partagée entre l'armée congolaise et nous-mêmes de ne pas seulement focaliser sur la lutte dans les zones d'ADF, mais
merci.
Aussi de protéger les civils à côté.
Merci.
Nous restons déterminés, nous restons fermes de continuer ça ensemble avec l'armée congolaise.
Merci David Grisly. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, un mot en swahili à l'endroit de toutes ces populations de la région de Beni.
Ndiyo, kwa wakaji wote wa Beni na kando ni kwamba kwa sasa ni muhimu MONUSCO na government tukae alafu tuone ni nini inapaswa kufanyika kwa ajili ya kuleta usalama wa kudumu katika maeneo zote za Beni. Pili, ni muhimu kuweza kuweka jeshi kubwa kunako mpaka ya Uganda na Kongo ili tujue ni wanani wanaendelea kuingia nchini mwetu kwa kuweza kutukosesha usalama. Na
yes.
Mwisho, population yote iweze kutegemea kutoa msaada wake kwa jeshi la Kongo na Umoja wa Mataifa ili sisi sote tutambue kama hili shida.
Merci.
Ni shida letu sisi sote, si shida la mtu mmoja. Tukafanya hivyo, tutawapiga hawa maadui vile tunavyotaka.
Honorable Munubo, vous parlez aussi swahili, un mot à l'endroit de ces populations meurtries.
Ya kusema kwa machache ni kusema kwa wakaaji kama inawezekana kumaliza hii shida ya ADF, inabidi ushirikiano bora kati ya serikali ya Kongo, kati ya jeshi ya Kongo na MONUSCO, na pia ushirikiano na raia na nisherti kufanya utafiti kujua ni nani anaua wa ndugu huko Beni, na nisherti wale wa victime wapate indemnisation. Ni
merci. Merci, merci messieurs d'avoir participé à cette émission Dialogue entre Congolais. C'est terminé pour ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bon suite au programme sur la radio de la paix. Au revoir.